Frères et sœurs, nous avons la joie de célébrer cette fête du Saint-Sacrement à travers toute la tradition de l'Église, depuis les apôtres qui n'ont cessé de professer cette présence réelle de Jésus. Et nous avons donc ces lectures qui nous sont données. Vous ne les avez pas sur vos feuilles, mais vous avez peut-être des Magnificats ou d'autres livrets. Vous savez que le mystère de l'Eucharistie est très... Il y a beaucoup de portes d'approche, et vous pourriez faire comme un petit jeu de chercher dans chaque texte à quel point de l'Eucharistie ça fait référence. La nourriture, le peuple marche dans le désert. Tiens, l'Eucharistie, c'est une nourriture. Ça m'aide à vivre ce temps du désert. J'ai besoin de la nourriture de l'Eucharistie pour avancer. Avec le pain, l'Eucharistie, il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Ah, l'Eucharistie doit être fait d'un pain de froment. Je suis toujours surpris quand on me dit c'est une hostie sans gluten. Ça va pas. Une hostie sans gluten, c'est un peu particulier parce que l'Eucharistie doit être fait avec du pain. Alors on me dit c'est des petites doses. Vous voyez ? Mais donc c'est la nécessité pour qu'on ait l'Eucharistie, c'est que ce soit du pain. Et pendant les siècles, cette question a été disputée. Hein. À certains moments, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas faire du pain avec du riz, quand il y a eu l'évangélisation dans les missions, parce que on voulait prendre la nourriture de base. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est un symbole, le pain? Est-ce qu'on s'adapte aux cultures? Ou est-ce que c'est fondamental que ce soit du pain? Et l'Église a dit, non, c'est du pain qui doit être choisi. Du pain de froment. Et puis dans la lettre Saint-Paul, nous voyons l'aspect plus mystique de ce que réalise ce pain. Ce n'est pas seulement une nourriture pour notre route, c'est aussi la communion qui se réalise. Une double communion, une communion avec Dieu et une communion les uns avec les autres. Quand je reçois l'Eucharistie, nous dit l'Évangile, je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Le Christ vient demeurer en nous. Et en même temps, cette communion, elle est pour réaliser ce corps du Christ, à former un seul corps. Et lorsque nous avons peut-être des combats dans l'unité, eh bien, rassemblons-nous autour de cette Eucharistie et demandons que le Christ lui-même réalise cette communion entre nous. Il y a enfin dans l'Évangile ces paroles assez violentes hein, qui font poser toujours la question aux enfants qui font le catéchisme. Mais on mange la chair de Jésus. Eh oui. C'est vraiment cette présence réelle. Le Christ est présent dans son corps et son sang, et ce n'est plus un symbole. Alors, frères et sœurs, je voulais vous citer quelques textes de nos pères, enfin, pas tous, parce que ça ferait beaucoup, mais prendre au moins 2-3 textes qui nous rappellent cette force de l'Eucharistie, et à travers les textes de ce jour, insister plus sur la question de la présence réelle, encore une fois, pour pas que nous nous habituions à cette présence de l'Eucharistie. Ces derniers jours, j'ai lu un texte par rapport à des réflexions synodales sur le fait de se dire, tiens, mais il faudrait que le cœur soit habité par tout le monde, toutes les réalités, et pas seulement les prêtres. On puisse tous y être. Et en réfléchissant par rapport à cette fête, je me suis dit, mais on devrait avoir tous peur de s'approcher de l'autel. On devrait tous se dire, mais ah, non, ce mystère est trop grand. Comme Marguerite Marie, je ne suis pas digne. Comme chacun d'entre nous à chaque messe, je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur. Et des fois, on peut être dans la culture de « Ah non, mais nous, mon Père, moi j'ai bien le droit d'être là, et pourquoi je n'y suis pas ?» Mais moi, prêtre, je n'ai pas le... Je préfère prenez ma place, si vous voulez. Toucher le corps du Christ. Alors on dit « Oui, mais il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. » Et justement, ces écrits de nos pères, depuis les siècles, nous sommes invités à recevoir un héritage, recevoir l'héritage de cette Eucharistie et de ne pas oublier la grandeur de ce que nous célébrons. Dieu se rend présent au milieu de nous et nous venons l'adorer. Et nous devons nous avancer en tremblant, comme Moïse rentre dans la nuée en tremblant parce qu'il va voir son Seigneur et pas parce qu'il est quelqu'un de meilleur mais parce que Dieu l'a choisi. Il l'a choisi pour cette mission. Et tout le peuple se réjouit. Le peuple dit d'ailleurs, non, non, toi tu vas parler et nous on va rester à distance parce qu'on n'a pas trop envie de s'approcher de ce Seigneur qui nous dépasse. Alors depuis, le Christ nous a montré qu'il était amour, qu'il se fait proche de chacun de nous, mais nous ne devons pas oublier qu'il est Dieu et que ce Dieu nous dépasse. Et nous sommes donc tous au service, les uns des autres, autour de ce mystère de l'Eucharistie. Alors, Ignace d'Antioche, qui est mort en 110, donc qui est quand même un contemporain des apôtres, écrit ce texte pour ceux qui, dans le sens inverse, ne s'approcheraient pas de l'Eucharistie parce que, pour différentes raisons, vous voyez. Et donc, pour vous encourager à vous approcher de l'Eucharistie. Les docètes, c'est-à-dire ceux qui pensent que le Christ n'était pas vraiment homme, qu'il était Dieu, mais qu'il a pris une apparence humaine, ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, la chair qui a souffert pour nos péchés, la chair que le Père a ressuscitée. Ainsi, en repoussant le don de Dieu, ils ne trouvent que la mort au sein de leurs disputes. Ils feraient mieux de pratiquer la charité pour participer aussi à la résurrection. Dans ce texte, donc ce premier texte, ces premiers textes de l'Eucharistie, il y a cette affirmation en lien avec le Christ qui a vraiment pris notre condition d'homme. Le Christ est vraiment présent dans son Eucharistie. C'est le corps livré pour nous. Et ce corps du Christ que nous sommes vers lequel nous sommes invités à recevoir est celui aussi qui nous entraîne dans cette charité les uns avec les autres. Vous voyez, l'Eucharistie ce corps du Christ vient réaliser cette Eucharistie. Saint Justin dira un peu plus tard, cette nourriture reçoit chez nous le nom d'Eucharistie et nul n'a le droit d'y prendre part s'il ne croit pas à la vérité de notre doctrine, s'il n'a pas reçu le bain pour la rémission des péchés en vue de la régénération et s'il ne vit pas conformément à l'enseignement du Christ, car nous ne prenons pas cette nourriture comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire. Mais de même que par le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est incarné et a pris chair et sang pour notre salut, ainsi la nourriture devenue Eucharistie par la prière empruntée aux paroles mêmes du Christ, et de laquelle notre chair et notre sang sont nourris par assimilation, nous avons appris quelle est la chair et le sang de ce Jésus qui est incarné. Les apôtres, en effet, dans les mémoires qui nous viennent d'eux et qu'on appelle évangile, nous rapportent qu'il leur a été ordonné d'agir ainsi après avoir pris du pain et rendu grâce. Jésus dit « Faites cela, faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps. » De même, après avoir pris la coupe et rendu grâce, il dit « Ceci est mon sang » et il les leur transmis à eux seuls. Donc nous sommes au milieu du deuxième siècle et Saint Justin, justement, comme dans l'évangile, Jésus nous dit, le pain que vous recevez n'est pas comme la manne que les pères ont reçue dans le désert, ce pain qui descendait du ciel. Non, c'est bien plus qu'un pain ordinaire et une boisson ordinaire. Nous sommes invités à le recevoir dans cette conscience plus vive encore que nous recevons le corps du Christ. Je fais un saut de 1800 ans et je reviens avec Paul VI après le concile, pour montrer toute cette tradition reçue et assimilée au fil des siècles. Pour travailler davantage le thème de l'unité, le Christ est présent dans son Eucharistie, mais il vient réaliser l'unité entre nous. Assurément, le symbolisme eucharistique a été beaucoup étudié par les pères et les scolastiques, surtout par rapport à l'unité de l'Église. Résumant leur doctrine, le Concile de Trente enseigne comme notre Sauveur a laissé à son Église l'Eucharistie comme symbole de cette unité et de cette charité par laquelle il a voulu que tous les chrétiens soient intimement unis et liés entre eux, et aussi comme le symbole de cet unique corps dont lui-même est la tête. Au tout premier temps de la littérature chrétienne, l'auteur inconnu de l'ouvrage intitulé « Didaché » ou « Doctrine des douze apôtres » écrivait à ce sujet « Pour ceux qui regardent l'Eucharistie, rendez grâce de cette manière. Comme ce pain rompu était auparavant dispersé sur les montagnes, alors il faut que vous imaginiez les épis de blé en lisant ce texte, comme le pain était dispersé sur les montagnes et devint un par le rassemblement des grains de blé, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des confins de la terre en ton royaume. Pareillement, Saint Cyprien, qui défendait l'unité de l'Église, écrivait « Enfin, les sacrifices mêmes du Seigneur mettent en lumière l'unité des chrétiens, soudés par une charité solide et infrangible. » Car quand le Seigneur appelle son corps le pain composé de l'union d'une multitude de grains, il désigne notre peuple réuni, ce peuple que lui-même portait, et quand il appelle son sang le vin tiré d'une quantité de grappes et de raisins, dont le jus a été exprimé et mêlé, il désigne de même notre troupeau unifié par la fusion de toute une multitude. D'ailleurs, avant les autres, l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, « Puisqu'il y a un seul pain, nous ne formons tous qu'un seul corps, car nous avons tous part à ce pain unique. » Mais si le symbolisme eucharistique nous fait bien saisir l'effet propre de ce sacrement, qui est l'unité du corps mystique, il n'explique ni ne montre ce qui, dans la nature du sacrement, le distingue des autres. Car l'enseignement constamment donné par l'Église aux catéchumènes, le sens du peuple chrétien, la doctrine définie par le Concile, les paroles elles-mêmes par lesquelles le Christ institua l'Eucharistie, nous obligent de professer que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, cette chair qui a souffert pour nos péchés et que le Père a ressuscité dans sa bonté. Le Seigneur n'a pas dit « Ceci est le symbole de mon corps et ceci est le symbole de mon sang », mais « Ceci est mon corps et mon sang ». Il nous apprend à ne pas porter notre attention à la nature de l'objet soumis à nos sens. Par l'action de grâce et par les paroles prononcées sur lui, cet objet est changé en chair et en sang. Frères et sœurs, nous recevons toute cette tradition de l'Église à travers les siècles. Demandons que nous puissions être renouvelés dans ce mystère qui nous dépasse, que nous ne nous habituions pas trop à l'Eucharistie et que nous l'approchions avec un respect de plus en plus grand, conscient que le Seigneur veut demeurer en nous, réaliser cette vie nouvelle en nous et aussi par cette Eucharistie nous conduire vers le banquet céleste, nous conduire vers cette vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen.